Kerouac Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, John Lydon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du jeudi 5 mai 2016. Au sommaire ce matin.
Au Sénégal, le festival de jazz de Saint-Louis aura bel et bien lieu. L'interdiction officielle de cet événement a suscité un concert de critiques, poussant les autorités à le maintenir et à mettre plutôt un accent sur la sécurité.
Climat tendu en République démocratique du Congo entre Moïse Katumbi, qui confirme sa candidature à la présidentielle, et le ministre de la Justice, qui l'accuse de recruter des mercenaires étrangers.
Nous avons la preuve documentée que plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tshako.
Le Burundi est en deuil. L'ancien président Jean-Baptiste Bagaza s'est éteint hier à Bruxelles à l'âge de 69 ans. Pierre Bouyoya, un autre ancien président, lui rend hommage dans ce journal.
Ce que je garde de lui, c'était que c'était un homme intelligent et grand travailleur qui certainement a contribué au développement du Burundi.
En Syrie, sous la pression des États-Unis et de la Russie, Damas s'est engagé à respecter une trêve de 2 jours jusqu'à demain minuit.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Une fois encore, bonjour. Le festival annuel de jazz de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, dont l'interdiction officielle a suscité un concert de critiques, se tiendra la semaine prochaine, comme initialement prévu, avec une sécurité renforcée après de récentes attaques djihadistes en Afrique de l'Ouest. L'administrateur de la région avait interdit la manifestation en évoquant le contexte sécuritaire ambiant, la vulnérabilité de la commune de Saint-Louis et le refus des organisateurs de s'engager dans l'effort de sécurité. La levée de l'interdiction a été réclamée par l'association Saint-Louis Jazz, qui organise le festival, des opérateurs économiques, de simples résidents et la star sénégalaise de la musique Youssou N'Dour a mis son poids dans la balance en faveur du maintien. Le festival annuel de jazz de Saint-Louis, qui est à sa 24e édition, doit s'ouvrir le 11 mai pour 5 jours.
L'opposant congolais Moïse Katumbi a confirmé hier sa candidature à la présidentielle prévue d'ici la fin de l'année et a tensé le pouvoir à Kinshasa, qui le soupçonne de recruter des mercenaires étrangers, y compris américains, à l'approche de cette échéance électorale. Les détails avec Georges Léonard Sagnou.
3 mouvements de l'opposition congolaise m'ont fait l'honneur de me choisir comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo, indique Moïse Katumbi dans un communiqué. J'accepte avec humilité cette lourde responsabilité, ajoute ce texte publié par le bureau de M. Katumbi sur son compte Twitter. M. Katumbi, 51 ans, ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, est passé dans l'opposition en septembre après avoir démissionné de ses fonctions de gouverneur et avoir quitté le parti présidentiel. Charismatique et populaire, le richissime homme d'affaires indique qu'il va entamer, dans les prochains jours, une tournée nationale à travers tout le territoire du Congo. Les basses manœuvres du pouvoir n'entravent pas mon combat pacifique. Je serai le candidat de l'état de droit, ajoute M. Katumbi, alors que les autorités ont entamé mercredi l'ouverture d'un dossier judiciaire à son encontre.
Le ministre de la Justice de la RDC, Ntambwe Mwamba, accuse l'opposant et ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, de recruter des mercenaires étrangers, y compris d'anciens militaires américains, dans son fief politique du sud-est du pays. Le 24 avril dernier, 4 proches de M. Katumbi, dont un Américain, ont été arrêtés à Lubumbashi au cours d'une manifestation d'opposition. Je vous propose d'écouter les accusations du ministre Ntambwe Mwamba recueillies par nos partenaires de Top Congo FM à Kinshasa.
Nos services de sécurité ont procédé à l'arrestation de 6 personnes, dont 5 Congolais et un sujet américain nommé Lewis Dari. Nous avons la preuve documentée à la suite des auditions de Lewis Daril et du Congolais Machila que plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tshako. Il se dégage que nous avons aujourd'hui d'anciens militaires étrangers qui sont sur notre territoire. Alors, comme je vous ai dit, j'ai instruit le procureur général de la République de lancer un dossier judiciaire.
C'était le ministre de la Justice de la RDC, Ntambwe Mwamba. Par ailleurs, l'opposant Moïse Katumbi a qualifié ses accusations de mensonges grotesques, assurant vouloir conquérir le pouvoir par les voies pacifiques.
Appel à une journée ville morte aujourd'hui au Tchad. Cet appel est initié par 6 candidats à l'élection présidentielle du 10 avril après la validation mercredi de la victoire au premier tour d'Idriss Déby Itno par la Cour constitutionnelle. La présidentielle du 10 avril a été qualifiée de braquage par Saleh Kebzabo, arrivé en deuxième position de ce scrutin avec près de 13% des voix.
L'affaire du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 continue de défrayer la chronique au Burkina Faso. Dernier rebondissement en date, l'arrestation de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré et le désistement de Interpol dans l'application du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Des détails avec Zoumana Onogo à Ouagadougou.
Le dossier coup d'État manqué au Burkina Faso vient de connaître un rebondissement avec l'inculpation et la mise aux arrêts de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. Ses confrères avocats se sont élevés contre la procédure, suivant Maître Moussa Koulibaly. Il est le vice-président de la conférence du barreau des avocats de l'UEMOA.
Nous estimons que la loi n'a pas été respectée. Nous ne savons pas aujourd'hui ce qui est exactement reproché au bâtonnier Traoré, mais nous disons déjà qui bénéficie de la présomption d'innocence.
Se sentant visé par la sortie des avocats, le procureur général du Faso a animé une conférence de presse pour expliquer son acte. On écoute Laurent Pouda, procureur général du Faso.
Ce qu'on reproche à Maître Traoré Mamadou est d'atteindre à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, complicité d'enlèvement et de séquestration, complicité d'actes de terrorisme, complicité de crimes contre l'humanité, complicité de coups et blessures volontaires. Ces infractions-là, ce sont des faits.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le premier ministre guinéen Mamadi Youla a présenté mercredi un programme axé sur la bonne gouvernance et l'ambition d'accroître les retombées économiques et sociales du secteur minier dans ce pays au sous-sol regorgeant de minerais.
Le principal parti d'opposition gambien, l'UDP, a réclamé mercredi dans un communiqué la libération immédiate de son chef et de tous ses membres et sympathisants arrêtés mi-avril et jugés notamment pour rassemblement illégal. Le chef du Parti démocratique uni, Ousanou Darboué, est devenu avec une quarantaine d'autres personnes, membres de sa formation ou sympathisants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sous la pression des États-Unis et de la Russie, Damas s'est engagé à respecter une trêve de 2 jours, aujourd'hui et demain, dans la ville d'Alep, ravagée par des combats entre les forces gouvernementales et des groupes rebelles. Cet engagement du pouvoir de Damas fait suite à l'annonce à Washington par le secrétaire d'État américain John Kerry d'un accord américano-russe pour étendre à Alep la cessation des hostilités en Syrie, en principe en vigueur depuis le 27 février.
Le président américain était en visite hier à Flint où il a tenu à boire de l'eau issue des robinets de cette petite ville du Michigan, secouée par un retentissant scandale sanitaire. Barack Obama a souligné que l'indispensable réparation des canalisations de la ville pourrait prendre plusieurs années. On fait le point avec Nani Talani.
Pour Obama, c'est juste pour illustrer ce qu'il savait scientifiquement qu'il a bu un verre d'eau. Il a rappelé l'avis des autorités sanitaires selon lequel l'eau de la ville, lorsqu'elle a été filtrée, est sans danger pour le public, à l'exception cependant des enfants de moins de 6 ans et des femmes enceintes. Le président américain a souligné que cette solution temporaire ne doit pas faire oublier que nombre de conduites d'eau en plan de la ville devront être remplacées dans un an ou plus. Ancienne cité industrielle, économiquement sinistrée, Flint est devenu en quelques mois le symbole de l'inquiétante dégradation des infrastructures dans nombre de zones urbaines des États-Unis, mais aussi des injustices profondes de la société américaine. La ville recevait son eau potable du lac Huron par Détroit avant qu'en 2014, les services du gouverneur républicain Rick Snyder ne décident de l'alimenter en eau de la rivière locale, pourtant acide.
Le milliardaire populiste Donald Trump a attaqué mercredi Hillary Clinton, sa probable adversaire de l'élection présidentielle américaine de novembre. Ses deux derniers rivaux des primaires Ted Cruz et John Kasich ont jeté l'éponge après le triomphe du milliardaire à la primaire de l'Indiana, c'était mardi.
L'armée israélienne a indiqué avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi des frappes aériennes contre 4 positions du Hamas islamiste qui dirige la bande de Gaza, territoire palestinien en proie à un accès des tensions depuis mercredi. L'armée israélienne avait déjà indiqué avoir frappé mercredi 5 positions du Hamas dans le sud de la bande de Gaza après un accès de fièvre subi aux frontières du territoire qui a connu 3 guerres entre Israël et les groupes armés palestiniens entre 2008 et 2014.
En Turquie, le torchon brûle entre le premier ministre Ahmet Davutoglu et le président Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes se sont publiquement opposés notamment au sujet du placement en détention provisoire de journalistes pendant leur procès, mesure à laquelle M. Davutoglu s'est dit défavorable. L'avenir du premier ministre turc Ahmet Davutoglu semblait suspendu à un congrès extraordinaire du parti AKP au pouvoir convoqué pour les semaines à venir. Une instabilité au sommet de l'État qui serait lourde de conséquences alors que la Turquie, partenaire clé de l'Europe pour affronter la crise migratoire, fait face à de nombreux défis, menaces djihadistes, reprise du conflit kurde, guerre en Syrie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez LMA sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le plus gros diamant brut du monde, estimé à plus de 70 millions de dollars, sera mis aux enchères le 29 juin à Londres, a annoncé mercredi la maison d'enchères Sotheby's. Baptisé les Edith Arona, il a été découvert au Botswana par Lucara Diamond Corporation. C'est un diamant de 1109 carats, le plus gros découvert depuis plus de 100 ans, a déclaré à New York David Bennett en le dévoilant, ajoutant que c'est la première fois qu'un diamant brut de cette taille est proposé aux enchères. La Banque centrale tunisienne a indiqué tabler sur une reprise de la croissance à 2% cette année et 3,5% en 2007, après une stagnation en 2015 liée à la crise du secteur touristique. L'institution mentionne toutefois la persistance de risques spécifiques, dont l'intensification des crises géopolitiques. La chute des recettes touristiques au premier trimestre a atteint 51,7% par rapport à la même période en 2015. Le pays doit mettre bientôt en œuvre un plan quinquennal qui prévoit une accélération des réformes. Le ministre saoudien du pétrole, Ali Al-Nouaimi, s'est rendu mercredi à Khartoum, où il a promis aux autorités d'accroître les investissements au Soudan, rapporte l'AFP. Au Soudan, nous allons concentrer nos investissements dans le secteur minier, a-t-il précisé avant de rencontrer le ministre soudanais des mines, Mohamed Al-Karouri. L'un des principaux dossiers concerne un projet d'exploitation minière offshore dans la mer Rouge visant à extraire du zinc, du cuivre, de l'argent et de l'or.
Merci Nathalie. Et nous voici en sport. Bagassi Koura est avec nous. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour John.
Alors la dernière finale de Champions League s'est jouée hier soir à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a éliminé Manchester City.
Oui, le Real Madrid se qualifie pour la 14e finale de Coupe ou Ligue des Champions en battant Manchester City hier soir 1-0. L'équipe de Zidane affrontera le 28 mai prochain à Milan en Italie l'Atlético. L'Atlético Madrid pour une revanche de l'édition 2014 remportée par la Maison Blanche.
Football anglais, Moussa Dembélé risque une lourde sanction.
Mise en accusation par la Fédération anglaise de football pour comportement violent lors du match de championnat face à Chelsea, le milieu de terrain belge avait planté ses doigts dans les yeux de l'attaquant des Blues Diogo Costa au cours d'une échauffourée.
JO 2016, tirage difficile pour les équipes africaines de handball.
Oui, chez les hommes, les Égyptiens ont été plutôt épargnés, contrairement aux Tunisiens. Chez les femmes, les Angolaises ont hérité d'un groupe très relevé. Et puis John, pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Merci Bagassi. Terminons par cette information qui fait la une dans la NBA, à savoir que le joueur vedette de Miami, Chris Bosh, absent depuis le 9 février, ne rejouera pas cette saison. Son équipe l'a annoncé hier. Chris Bosh, aujourd'hui âgé de 31 ans, ne reviendra pas pour les playoffs. L'équipe et l'encadrement médical ont travaillé ensemble
et vont continuer à le faire pour que Chris rejoue au basket le plus rapidement possible, a indiqué le Heat dans un bref communiqué. Bosch, sacré champion NBA en 2012 et 2013, a disputé 53 matchs cette saison.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Lydon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour et on commence ce matin par le Mali. Au Mali donc, 21 morts et 4 blessés. C'est le bilan des affrontements survenus dans la commune rurale des Carréré dans le cercle de Ténénkou. Ces affrontements ont opposé les communautés Peul et Bambara de la zone. Notre correspondant Mamadou Bonkou s'est intéressé aux causes de ces événements. Je vous propose d'écouter son compte rendu.
Le torchon brûle entre les communautés Peul et Bambara dans la commune de Kareri dans le cercle de Ténénkou. De violents affrontements ont eu entre ces deux communautés depuis le 30 avril dernier et jours suivants. Quelles en sont les causes? Magan Doumbia est le préfet du cercle de Ténénkou.
L'événement là tire sa source dans des raisons assez profondes. Mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que les causes immédiates, c'est surtout l'assassinat du troisième maire de Kareri avec un paysan qui l'accompagnait. Ils ont été fauchés entre Balemana et Tigri Fenandji le 30 avril. Directement après l'assassinat, là, il y a des éléments de la communauté Bambara aussi qui se sont organisés à travers la fraternité des chasseurs, évidemment. Ils sont venus à Balemana où ils ont pris des contacts. Avec ces contacts-là, il y a un notable même de Mali Mena qui nous a carrément révélé que deux de leurs jeunes ont immédiatement assassiné quatre Peul en représailles de la mort du maire et de son compagnon. Ce qu'on peut dire comme cause de ce conflit-là.
Le bilan de ce conflit intercommunautaire est très triste, comme nous l'indique le préfet Magan Doumbia.
Le bilan, comme je vous l'ai dit, les premières victimes, c'est d'abord le troisième maire de Kareri et puis son compagnon. Bon. Après, il y a eu la représailles que les enfants du vieux Toli de Malemana ont accompli. Après ça, la communauté Bambara a continué à s'organiser. Après, il y a eu des motocyclistes, enfin des cross-motos noirs qui sont venus dans le village et ils ont lancé la chasse aux Peul. Il y a 21 morts plus 4 blessés en total, quoi.
La situation est calme pour l'instant, mais le premier responsable du cercle de Ténénkou fait une proposition de solution pour éviter ce genre d'affrontement.
Il faut une troupe militaire dans cette localité qui ne reste pas aussi tranquille. Il faut que ces gens ils se mobilisent, que des patrouilles soient instituées dans cette zone-là. Parce que le Kareri est vaste. C'est une des communes rurales où on a banalement 37 villages et puis 3 fractions ou 3 fixations nomades.
Ce conflit intercommunautaire vient s'ajouter à une autre crise qui sévit dans la zone. Il s'agit des attaques presque quotidiennes des éléments du Front pour la libération de Massina. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Africa.
Cette semaine, dans Washington Forum, la liberté de la presse en déclin. Journalistes muselés, agressés, parfois même assassinés, la censure se porte bien. Entre gouvernements répressifs et militants extrémistes, les journalistes sont-ils en mesure d'informer en Afrique francophone? La neutralité est-elle possible dans un contexte de crise politique? Vos questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous jeudi à 19h temps universel avec Morgane Liriec et ses invités.
L'enlèvement des civils suivi d'une demande de rançon devient un phénomène récurrent dans le Nord Kivu à l'est de la RDC. Certaines associations de la société civile rapportent plus de 200 cas de kidnapping suivi d'une demande de rançon aux familles des victimes depuis le début de cette année. Le plus souvent, l'on accuse les présumés rebelles rwandais FDLR qui opèrent depuis plus de 20 ans dans le parc de Virunga. Depuis le week-end dernier, une vingtaine de civils, dont 3 humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge, ont été amenés à une destination non encore déterminée, suivant ce reportage de Charlie Kasereka depuis Goma.
Pour les trois humanitaires du CICR portés disparus depuis ce 3 mai, l'organisation précise avoir perdu contact avec ces trois chauffeurs et précise être en contact avec les autorités pour la suite des enquêtes. Elisabeth Cloutien est déléguée communication CICR ici à Goma.
Le CICR confirme que nous sommes sans nouvelles de trois collaborateurs depuis hier. Nous sommes en contact avec les autorités locales, nationales.
D'autres cas d'enlèvement suivis d'une demande de rançon sont souvent signalé dans la ville de Goma. Madame Mariam Kiota recherche son fils, âgé de seulement 11 ans, porté disparu depuis plus d'un mois maintenant. Elle a depuis approché des maisons de téléphonie mobile pour localiser les présumés ravisseurs de son petit garçon qui l'ont déjà rançonné une centaine de dollars via les mobile bank sans lui rendre son petit garçon, Madame Kiota.
J'ai depuis déposé une plainte au parquet et le parquet avait approché de maisons de téléphonie pour cette cause. Mais jusqu'aujourd'hui, sans suite. J'avais transféré une première tranche de la somme demandée pour le rançon, mais l'enfant ne m'avait jamais été rendu.
À notre présence, elle essaie de recontacter les présumés ravisseurs pour entamer une nouvelle négociation.
Je vous en supplie, j'ai seulement 50 dollars. Rendez-moi mon enfant qu'il puisse continuer les études.
Pour ce rendez-vous, ces présumés ravisseurs la roulent pour une nouvelle fois dans la farine et la maman reste inconsolable. Madame Florence Boivin, de l'association Justice et Équité qui milite pour mettre fin au trafic humain depuis plus de 5 ans au Nord Kivu, interpelle les maisons de téléphonie mobile étant donné que les ravisseurs recourent souvent aux transactions via les mobile banks pour leur sale boulot.
L'année dernière, il y en avait plus de 300. J'ai l'impression que cette année, et encore ça, c'est des déclarés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés. Mais pourquoi on a ADF qui est affilié avec Al-Qaïda? On a essayé avec les compagnies de téléphone qui se moquent de nous parce qu'il n'y a rien qui se fait. Et on lance un cri d'alarme en disant maintenant, il faut que les autorités donnent et fassent quelque chose de spécial avec le Nord Kivu.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de ces maisons de téléphonie mobile pointées du doigt sont restés vains. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Le Burundi a perdu hier un de ses anciens présidents de la République, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, s'est éteint à 69 ans à Bruxelles, en Belgique, à l'hôpital Sainte-Élisabeth. M. Bagaza a dirigé le Burundi du 1er novembre 1976 au 3 septembre 1987. Il était sénateur à vie, comme tous les autres anciens présidents burundais encore en vie. Son tombeur, le major Pierre Buyoya, lui reconnaît le développement du pays, mais surtout sa capacité de mobiliser les Burundais pour ce pari.
Je voudrais d'abord avoir l'occasion de présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches. Son décès, c'est une perte pour le pays, c'est avant tout une perte pour la famille et les amis. Alors, j'ai travaillé avec le président Bagaza de nombreuses années dans les structures de l'armée à l'époque, dans les structures du parti Prona quand il était encore le parti unique. Alors, ce que je garde de lui, c'était un homme intelligent et grand travailleur et qui certainement a contribué au développement du Burundi. Il a eu la chance de gérer le pays à l'époque où il y avait de la paix, de la tranquillité. Je pense que on se souviendra de lui surtout par les efforts qu'il a fait dans ce sens du développement.
Et en particulier, sa marque, c'est laquelle?
Depuis les 10 ans qu'il est passé au pouvoir, la marque, c'est vraiment que les Burundais étaient mobilisés pour le développement. Si on ne veut pas aller dans les détails et isoler l'une ou l'autre opération.
Il s'est attelé au développement, mais aussi personne n'est parfait. Vous l'avez renversé plus tard. Quelles étaient, par exemple, la vision différente dans la manière de gérer l'État?
Après 10 ans au pouvoir, je pense qu'il y a eu le système de fatigue, il y a eu le grave conflit entre l'Église et l'État, il y a eu la personnalisation du pouvoir et stricte limitation des libertés publiques. Je pense que c'est ça qui a conduit au changement de cette époque. Mais aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas le moment de faire le procès d'un homme politique le jour de son décès.
Le président Pierre Bouyoya, joint à Bamako au Mali par Eric Manirakiza.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Un nouveau test sans douleur pour détecter le paludisme. Au lieu d'un prélèvement sanguin, ce test utilise les urines du malade présumé et peut s'effectuer à domicile. Le gouvernement nigérien a lancé une campagne de vulgarisation de ces tests auprès de la population qui a tendance à mettre toute fièvre sur le compte du paludisme. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le kit de ce nouveau test du paludisme est simple. Il se compose de 5 bandelettes de détection, le tout coûtant l'équivalent de $12 américains dans les pharmacies nigérianes. Il suffit de tremper une des bandelettes dans l'urine pendant 25 minutes et le tour est joué. L'apparition d'une marque sur la bandelette signifie que la personne ayant fourni l'urine n'est pas porteuse du paludisme. Par contre, 2 lignes indiquent qu'elle est atteinte de cette maladie transmise par les moustiques. En plus de sa rapidité, ce test présente l'avantage de n'être pas douloureux, contrairement au test sanguin nécessitant qu'on pique le doigt du malade, présumé pour recueillir et analyser son sang. Un avantage majeur, se réjouit Ezine Agnaou, une dame faisant ses emplettes.
L'élimination du paludisme au Nigeria accuse du retard. De nombreux pays y sont parvenus et le ministère fédéral de la Santé déploie beaucoup d'efforts pour encourager des soins adéquats. One aspect is to
test before you treat. Maladie endémique dans de nombreux pays du monde, y compris le Nigeria, le paludisme atteint chaque année quelque 425 millions de personnes. Il fait plus de 400 000 morts par an. En Afrique et des enfants d'Afrique subsaharienne pour la plupart. Un diagnostic rapide est donc la clé d'un traitement adéquat. Le test de détection du paludisme par l'urine a été mis au point par la compagnie américaine Fiodor Biotechnology et expérimenté au Nigeria. Victoria Nwenmadu travaille pour Fiodor Biotechnology.
Je pense que c'est révolutionnaire car j'ai de nombreux parents qui ne savent pas nécessairement prendre soin d'eux et qui estiment chaque fois qu'ils sont malades qu'il s'agit du paludisme. Peu importe qu'il s'agisse d'un changement de régime alimentaire, tout est paludisme et ils prennent les médicaments correspondants.
Selon Mme Nwadu, la mise au point du test d'urine constitue une valeur ajoutée dans les efforts d'élimination du paludisme. Disposer d'un kit de détection au lieu d'un test sanguin facilite ces efforts. La compagnie Fiodor Biotechnology, quant à elle, veut rendre son test d'urine accessible à travers l'Afrique et l'Asie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel, au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Petite étoile azotangi sab alarme, au roi soleil plus jamais à quoi paraître. Monde musical et koti molili, tout est noir dans nos cœurs. Ba note musicale et kelili charme, y a voix nos pour toujours. Rossignol d'Afrique ne chantera plus. Papa Wembo tiki biso n'a pas si. Afin de
c'est la fin de cette édition présentée par John Lyndon et Jean-Roger Billon. Production Georges-Léonard Sagno, mise en onde Jimmy Cook. Ainsi va le monde aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com 24h sur 24.